Addict Culture Podcast.
La critique invisible de David Nathanson.
Tout était réuni pour que ce concert des Matchpoint Dirty soit un peu le concert de l'année, ou le concert du mois en tout cas. Je les avais pas vus sur scène depuis 3 ans. Il faut dire que le bassiste avait fait une rupture d'anévrisme après leur dernière tournée européenne dont ils s'étaient miraculeusement sortis et c'était assez inespéré de les voir revenir dans leur formation originelle. Alors pour ceux qui connaissent pas les Matchpoint Dirty, et malheureusement ils sont encore assez nombreux en France, c'est un groupe de rock canadien, fondé en 2004 par Kern Deringer et 2 anciens copains de lycée à lui. La légende raconte qu'ils ont eu l'idée d'appeler leur groupe comme ça après avoir regardé un match interminable entre Robin Söderling et Marnie Fish et où l'Américain avait fini par gagner au bout de 5 heures de jeu et une balle de match un peu pourrie, une amortie ratée de Fish qui avait été déclarée bonne par le juge de ligne alors qu'elle était manifestement hors des limites du terrain. Les 3 potes ont commencé à répéter dans leur garage comme tout bon groupe de rock qui se respecte et c'est seulement en 2008 que des producteurs se sont intéressés à eux. Après les avoir entendus jouer dans une petite salle d'Ottawa en première partie de My Graveyard Is Not Your Graveyard. Ils ont finalement sorti leur premier album en 2010, qui a connu un succès relatif dans leur pays, même s'il y a eu un début d'emballement médiatique, et que certains journaux spécialisés n'ont pas hésité à voir en eux la nouvelle vague rock, en les comparant à des jeunes Pixies canadiens, ou même à la relève de Sonic Youth. Un des journaux locaux avait carrément titré « The New Youth of Sonic Youth ». Je les ai découverts un peu par hasard l'année d'après. Ils étaient en France pour essayer d'élargir leur audience européenne. Avec leur tourneur, ils faisaient le tour des petites salles, voire même des bars parisiens, pour essayer de trouver quelques dates. Et ce jour-là, j'étais dans un magasin de disques du 11e arrondissement où je voulais m'acheter le dernier PJ Harvey, que Paola, ma copine italienne de l'époque, m'avait offert en CD, mais je trouvais que PJ en vinyle, ça avait quand même un peu plus de gueule. Bref, je me suis retrouvé dans la boutique en même temps que Kern, qui était en train de déposer un tas de flyers à côté de la caisse. Je lui ai demandé ce que c'était, et il m'a répondu un truc que j'ai pas vraiment compris parce que je parle pas très bien l'anglais canadien, mais bon, finalement j'ai lu le flyer et j'ai vu que c'était de la pub pour un concert qui avait lieu le soir même. Je suis rentré chez moi et j'ai tout de suite proposé à Paola de venir avec moi. Je me souviens qu'elle avait pas voulu parce que, je cite, « Ma tes groupes, j'en peux plus tout ça, je crois que je vais rester à la maison et regarder les Fellini qui repassent sur le tatale francese. » Si je me souviens bien, après ça, on est resté encore ensemble 2 mois et puis on s'est séparés. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais cette histoire avec Paola, ça aurait dû me guérir définitivement des italiennes. Sauf que, il faut croire que je suis un petit peu loin à la détente parce que j'ai recommencé 2 ans après avec Bianca, dont je me suis séparé 2 mois avant de rencontrer Léonore. Donc c'est assez récent, en fait. Bref, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une autre fois ou pas. Donc, pour en revenir au concert des Matchpoint Dirty, ça devait un peu être la soirée de l'année, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je vais assez peu écouter des concerts dans les grandes salles. D'abord parce que je trouve que l'ambiance est moins bonne que dans les petites, mais surtout parce que j'aime bien l'idée qu'on soit peu nombreux à vraiment connaître un groupe. J'ai l'impression de partager un secret entre initiés, et j'aime beaucoup cette sensation. Même si, évidemment, j'imagine que le groupe préférait jouer dans un stade plutôt que dans une cave du 18e arrondissement, avec comme spectateurs 12 geeks qui ont appris à danser sur Canary Bay d'Indochine. Tout ça pour vous dire que j'attendais ce concert avec beaucoup d'impatience. Léonore devait venir avec moi, il était prévu qu'on retrouve 2 amis dans la salle. Quand on est entré, on est tout de suite allé au bar, comme on le fait en général quand la première partie ne nous intéresse pas. En l'occurrence, la première partie, c'était un groupe français, les French Doctors. Un groupe complètement inconnu au bataillon et qui était probablement là parce que le bassiste devait être un copain de la sœur du manager ou quelque chose comme ça. Sauf qu'à un moment, j'ai quand même jeté un œil sur la scène pour voir à quoi il ressemblait. Et je me suis rendu compte que le visage du batteur n'était pas complètement inconnu, mais impossible de savoir d'où je le connaissais. J'ai demandé à Léonore et à mes amis qui n'en avaient pas la moindre idée. Du coup, j'ai regardé la suite du concert pour essayer de retrouver, et au bout de 4 chansons assez pénibles, je me suis rendu compte que le batteur n'était autre que le fils de Guillaume Le Guilvinec, mon ami d'enfance que j'avais vu la dernière fois il y a 20 ans, 2 ans après la naissance de son fils Phileas, et avec qui je m'étais brouillé assez violemment. Guillaume, pas son fils. Évidemment, j'aurais jamais reconnu Phileas s'il avait pas ressemblé comme 2 gouttes d'eau à son père. J'ai trouvé ça tellement génial comme coïncidence que j'ai attendu la fin de leur set pour aller backstage lui parler. Phileas m'a pas reconnu, faut dire que ça aurait été un peu étonnant vu qu'il avait 2 ans la dernière fois qu'il m'avait vu. Mais quand je lui ai parlé de son père, du groupe de rock qu'on avait eu ado et de toutes les conneries qu'on avait faites ensemble, il a eu l'air vachement intéressé. Et comme il sortait de la salle pour aller fumer une cigarette, il m'a demandé de venir avec lui pour continuer à discuter un peu. Je lui ai dit que je préférais pas rater le début du concert des Matchpoint Dirty, mais il m'a fait remarquer que le temps que la scène soit dégagée, je pouvais tout à fait sortir en étant sûr de rien rater. Donc on est sorti. Et on a continué à discuter un petit moment jusqu'à ce que Phileas retourne dans la salle parce que l'attaché de presse voulait lui demander un truc. Moi, je suis resté encore un petit peu dehors pour finir ma cigarette. Et quand j'ai voulu re-rentrer, le vigile m'a demandé mon billet, qui était donc dans la poche du manteau de Léonore avec mon téléphone portable. J'ai demandé au type d'aller chercher Phileas, mais il n'a pas voulu. Et après 10 minutes à parlementer avec lui, j'ai compris que ça servirait à rien et que je verrai pas les matchs Bunderty, en tout cas pas ce soir. Donc, j'ai fini par aller attendre au troquet d'en face en sirotant une bière et en maudissant Guillaume le Guilvinec, ce connard avec qui j'avais bien fait de me brouiller. J'ai retrouvé Léonore 2 heures plus tard, elle m'a dit qu'elle avait été super inquiète et qu'elle avait essayé de me retrouver dans la salle mais que le concert était tellement incroyable qu'ensuite elle m'avait complètement oublié et qu'elle s'était déchaînée au pied de la scène en dansant pendant tout le set. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire en conclusion, c'est qu'il faut absolument aller voir les Match Point Dirty en concert. C'est un groupe hyper généreux qui donne toujours tout ce qu'il a, et j'espère en tout cas que cette chronique vous aura donné envie de les découvrir. Je vous quitte donc en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour une chronique où je vous parlerai théâtre avec la prochaine mise en scène de Juliette Maury, la nouvelle coqueluche du jeune théâtre français. À très bientôt.